Courtoisie, ligne droite avec Clément Soutiakova.
Et tout de suite, on va parler des conséquences géopolitiques de la rupture du contrat sous-marin France-Australie.
Nous avions tous le même âge, les mêmes joies. Quand un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta son séjour au fond des mers, dans un beau sous-marin vert. Aussitôt, sans un adieu, comme de vrais marins courageux, nous partions dans un beau sous-marin vert. Un sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu. Tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus. Prévoyant des jours de fête à la gloire du commandant. Nous avions une fanfare. Allez les gars là. Un sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu. Tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus.
Ah, ça y est. Ouais, c'est une très jolie chanson que je ne connaissais pas, que je découvre grâce à Franck, notre réalisateur préféré, le sous-marin vert. Voilà, c'est pas le sous-marin jaune chanté par les fameux Beatles, mais le sous-marin vert. Merci beaucoup Franck pour cette découverte. Et tout de suite, on va en parler de ces sous-marins avec Éric Dénessé.
Ligne droite, l'éclairage du jour.
Et oui, depuis mardi dernier, c'est un peu panique à bord au cœur du gouvernement français. Le contrat du siècle à 60 milliards de dollars, celui qui avait été annoncé comme une victoire française capable de nous apporter emploi et prospérité, est tombé à l'eau. 600 personnes vont perdre d'ailleurs un emploi au port de Cherbourg. Et mardi dernier, c'est le moment où tout est arrivé, le gouvernement australien a notifié officiellement au gouvernement français la rupture du contrat pour la fourniture des sous-marins. Quelques heures seulement avant l'annonce officielle d'un nouvel accord avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour la vente de sous-marins nucléaires, cette fois-ci, dans le cadre d'un pacte de coordination appelé AUKUS. Alors, AUKUS est une alliance inédite qui vient d'être nouée entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne dans le domaine de la sécurité française. Alors, la réaction française, la France a rappelé ses ambassadeurs à Canberra, à Washington, et elle a accusé ses alliés de mentir sur leur projet. Gabriel Attal a annoncé ce week-end, le porte-parole du gouvernement, qu'un échange téléphonique était prévu avec Biden et Macron dans les prochains jours. Voilà, nous sommes sauvés. Du côté australien, Peter Dutton, le Premier ministre australien, a lui souligné la nécessité pour l'Australie d'agir dans son intérêt national. Alors, j'ai la joie d'être avec Éric Dénessé, ancien analyste du renseignement, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R, et auteur de ce livre, La nouvelle guerre secrète aux éditions Mareuil. Bonjour Éric Dénessé.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut reprocher à l'Australie, finalement, de répondre à ses intérêts nationaux, comme elle dit ?
Alors non, bien sûr, on ne peut reprocher à aucun pays de protéger ses intérêts nationaux, surtout qu'elle l'a fait en grande partie sous la pression américano-britannique. Ce qu'on peut lui reprocher, parce qu'il y a quand même des choses à lui reprocher, c'est de ne pas avoir tenu parole. Puis surtout, je crois que quand on connaît ce dossier sur le fond, on voit que le processus de choix, de sélection des sous-marins a été lui-même assez erratique et que malheureusement, il a conduit à cette décision, parce que les éléments avaient quand même pas mal changé entre 2016, qui est la date de signature, et même les années précédentes, et puis la situation actuelle.
Oui, mais ça justement, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y avait une commande de sous-marins à propulsion diesel. Finalement, ils se sont retournés vers des sous-marins nucléaires. Pourquoi ce changement de direction, de choix ?
Alors, je crois qu'il y a deux grands changements. Il y a le fait que l'industrie américaine puis l'industrie britannique ont besoin de ces contrats aussi, même si elles n'en ont pas autant besoin que l'industrie française. Donc, il y a eu des pressions énormes sur Canberra pour faire échouer et remettre en cause le contrat français, pardon. Mm-hmm. Alors, ce qui se passe aussi d'un autre côté, c'est que les Australiens ont vu monter cette menace chinoise depuis quelques années. Alors, non seulement ils la mesurent, mais les Américains derrière font pression, bien sûr, pour que les Australiens se rapprochent du front qu'ils ont créé avec les Britanniques contre la Chine. Et dès lors, ils se disent que, bien sûr, des sous-marins à propulsion nucléaire seront plus efficaces et plus discrets que des sous-marins diesel. Et surtout qu'ils pourraient les avoir plus vite parce que la technologie est déjà en service sur les bâtiments américains, qu'ils vont pouvoir mettre des opérateurs eux-mêmes sur les bâtiments américains pour commencer à les former, alors qu'il aurait fallu fallu attendre plus longtemps avec des sous-marins français. Tout ça a un fond de vérité, mais ça ne justifie en rien l'acte absolument scandaleux qui s'est produit, bien sûr, il y a quelques jours.
Alors, on dit quand même qu'il y avait une première alerte qui avait été donnée, officielle, le 15 juin dernier, que le Premier ministre avait déjà évoqué le fait que la facture ne cessait de gonfler, qu'elle avait presque doublé.
Oui,
pardon, nous avons été coupés. Et le Premier ministre avait alerté Paris à ce sujet.
Alors oui, en tout cas, c'est ce que l'on dit, on n'a pas l'information exacte, mais quand bien même il l'aurait fait, ça ne justifie pas la remise en cause d'un contrat à ce point tel qu'il avait été conçu, signé en 2016. Maintenant, il faut aussi se dire que même si des CNS subit là un revers terrible, c'est aussi un revers national, et puis qu'il va être important de voir quelles sont les contreparties financières à cette rupture de contrat.
Oui, c'est ce qu'annonce d'ailleurs notre porte-parole, le porte-parole du gouvernement. Il a dit qu'il y aura des contreparties. Bon, on attend de voir lesquelles. On sait aussi que Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Joe Biden. Bon, qu'est-ce qui va en ressortir? On verra à ce moment-là. Sur l'alliance AUKUS, le renforcement de cette alliance justement entre l'Australie, les États-Unis et l'Angleterre, c'est finalement une nouvelle alliance pacifique qui est assez naturelle, comme vous le dites. Il y a aussi cette menace chinoise. Est-ce que c'est une forme de retour du Commonwealth?
Oui, c'est une petite forme de retour du Commonwealth. En fait, c'est surtout un machin, puisque il existait déjà le pacte des cinq nations, le FPDA. Il existait aussi l'OTAS avant, qui était l'ancêtre de l'OTAN pour contenir le communisme dans la zone pacifique. Donc, en fait, c'est plutôt renommer une action et lui donner dimension diplomatique, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Ce qui est important, il y a quand même deux choses, c'est que les Américains lancent cette action avec les Australiens après leur déroute en Afghanistan, donc ils ont aussi besoin de redorer leur blason, il faut le dire. Et ensuite, ils ont le don de faire monter le danger, même s'il y a une partie de réalité, le danger chinois pour réunir autour d'eux l'ensemble de leurs alliés et essayer de maintenir un peu leur puissance. Donc c'est bien sûr une trahison australienne, mais derrière ça, c'est aussi une stratégie américaine qui n'est pas tant orienté contre la France finalement que tout simplement se dire les Français sont sur le chemin, ils nous dérangent et bien on les balaye.
Voilà, mais ce qui pose aussi question sur la stratégie elle française, quel est le jeu de la France sur la scène étrangère? On a l'impression qu'elle est quand même en perte d'influence. Là, on a vu l'histoire de l'abandon du contrat australien, mais il y a aussi la Suisse qui est arrivée il y a peu de temps. Le lendemain de l'annonce australienne, c'était la Suisse qui annonçait sa décision d'achat d'avions américains, les F-35A, de nouveau, alors que les Rafales français aussi étaient en concurrence. Et puis, on se rappelle aussi que les Français ont essayé de faire abandonner le contrat Nord Stream 2 entre l'Allemagne et la Russie. Et là, c'est l'Allemagne qui, elle, a appliqué sa décision jusqu'au bout. Finalement, on a l'impression qu'on n'arrive pas tant à faire bouger les choses que ça, nous, au niveau...
Oui, alors, il y a deux choses. D'une part, il y a des contrats qui sont signés. Le contrat australien a été signé. Donc là, c'est quelque chose d'assez grave quand on remet en cause un contrat signé. Les autres n'étaient pas des contrats gagnés. Donc, effectivement, il y a une perte d'influence commerciale. Mais ça, malheureusement, on en a l'habitude. Les Américains mettent le paquet à chaque fois pour faire gagner leurs industriels. Et quand bien même, d'ailleurs, le F-35 est un avion qui a énormément de défauts et en matière opérationnelle, il n'est pas eu. Mais ce qu'il faut dire, et je pense que c'est important pour les auditeurs, c'est que finalement, dans ce dossier, ceux qui sont à blâmer, ce sont les autorités françaises, bien sûr, politiques d'abord et puis éventuellement commerciales derrière, parce qu'un certain nombre de signes avant-coureurs sur ce dossier australien existaient. Il y avait eu des fuites et des rumeurs organisées dont on ne sait pas trop par qui, en Inde notamment, sur des fiches techniques du sous-marin qui était parti dans la nature. Donc tout ça nous semblait, dès que c'est sorti, comme un peu gros. Puis les Australiens, notamment l'opposition politique au Premier ministre, avaient commencé à essayer de remettre le contrat en cause. Mais plus largement derrière ça, plus que la trahison ou la duplicité des Australiens, plus que la stratégie américaine, ce qu'il faut fustiger, c'est la nullité et la naïveté française. On a déjà eu l'affaire Alstom, on a eu l'affaire des ravitailleurs, on a eu l'affaire des bâtiments de projection et de commandement que nous voulions vendre à la Russie et qu'on nous a interdit la vente à laquelle on nous a interdit de procéder au dernier moment. Donc les vrais fautifs et les vrais dindons de la farce, ce sont bien les Français et nous en sommes malheureusement responsables.
Oui, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour mieux réagir? Quelle aurait dû être la réaction française? Est-ce que le rappel des ambassadeurs était une bonne chose? Qu'en pensez-vous?
Non, ça c'est un geste cosmétique pour sauver la face, mais qui ne sert à rien. Écoutez, depuis plus de 30 ans que les Américains jouent ce jeu avec nous, nous n'avons strictement rien fait. Nous les suivons aveuglément dans toutes les opérations, même quand nous n'y avons aucun intérêt politique ou international. Ça a été le cas de l'Afghanistan. Nous ne menons aucune action de rétorsion lorsque ils rachètent Alstom et qu'ils mettent en prison un de nos ressortissants. Donc, à force, si vous voulez, lorsque vous êtes face à un partenaire qui est un auxiliaire extrêmement docile, vous n'avez plus d'état d'âme et systématiquement vous prenez des décisions qui vont à son encontre. Et nous sommes malheureusement mis dans cette situation-là vis-à-vis des États-Unis. Et donc ça explique leur attitude, leur réaction et leur absence d'état d'âme par rapport à l'industrie française.
Donc la solution pour la France est aujourd'hui de taper fermement du poing sur la table.
Oui, alors il faut quand même.
Ou est-ce que c'est trop tard?
Non, il n'est jamais trop tard, mais nous n'avons quand même pas les moyens de tenir tête et de nous opposer aux États-Unis. Par contre, un certain nombre de décisions peuvent être prises, effectivement, en matière de réaction économique, de sanctions. Et puis, je pense qu'il faut réfléchir sérieusement à quitter l'OTAN et rattraper l'erreur qu'a commise Nicolas Sarkozy en 2008 en réintégrant la France dans l'organisation militaire intégrée de l'Alliance, parce que ça apporte certes des avantages militaires, mais en dehors de ça, ça ne nous apporte rien. Et nous devons manifester notre désolidarisation vis-à-vis de la politique internationale globale des États-Unis.
Oui, et puis peut-être revoir aussi notre système d'alliance à nous, un système national, ou peut-être qu'on pourrait réenvisager par exemple une alliance avec la Russie ou avec des partenaires continentaux plus forts qui nous permettraient justement d'avoir une indépendance par rapport aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Le système d'alliance internationale français doit être mis en cause. Alors, retrouver une position intermédiaire entre les États-Unis et la Russie est indispensable. Changer notre attitude vis-à-vis de Moscou aussi. Alors de là à parler d'un rapprochement avec la Russie, je pense qu'il faut quand même être prudent parce que nos intérêts et les alliés de la Russie ne sont pas nécessairement les alliés de la France. Je pense notamment à la Chine. Mais c'est vrai que sur la crise ukrainienne, sur la Crimée, sur la situation en Syrie, nous avons systématiquement joué le jeu américain qui est un jeu qui était à la fois très dangereux pour la paix et la sécurité mondiale et qui sur le plan du droit international était quelque chose de tout à fait faux. La Syrie, qu'on soit d'accord ou pas avec le régime de Bachar, reste un État souverain et nous l'avons agressé. Les Américains laissent leurs alliés turcs occuper une partie du territoire septentrional de Damas sans que personne ne dise quoi que ce soit. Et bien sûr, on pousse des cris d'orfraie quand les Russes, d'une manière assez similaire, viennent soutenir leurs alliés dans le Donbass, dans l'Est de l'Ukraine. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures et nous avons systématiquement fait le mauvais choix. Nous suivons aveuglément les États-Unis et nous sommes considérés désormais comme des auxiliaires par le reste du monde au même titre que les Britanniques. Ça ne nous a rien rapporté et au contraire, ils continuent à nous tailler des croupières. Donc une vraie remise en cause de notre politique s'impose.
Bien, c'est bien noté. Merci beaucoup Eric Denessé. Il faut qu'on retrouve notre politique nationale avec notre réelle politique à nous et ne plus être un auxiliaire notamment des États-Unis. C'est bien noté. Merci encore Eric Denessé. Je rappelle votre livre qui vient de sortir, La Nouvelle Guerre Secrète, aux éditions Mareuil.